L'actualité de luge biplace de Jeff et Pascal. Les envolées triple double piquées de Véro et Denis.
Je piquais. Parfait! Yeah!
Les sauts périlleux d'Audrey Pinchot et les reportages longue distance avec Mathias sur le terrain. Restez à l'écoute de nos athlètes radiophoniques pour tout savoir sur les Jeux à Boulevard 102.1.
Boulevard 102.1.
Look, if you had one shot, one opportunity, would you capture it?
Le Canada ajoute une 10e médaille ce matin grâce à la 2e place de Courtney Sarrow, 1000 mètres en patinage de vitesse courte piste. Celle qui nous vient du Nouveau-Brunswick, mais qui s'entraîne à Montréal, on est déjà à sa 3e médaille à ces Jeux. Grâce à cette nouvelle médaille, le Canada est 11e avec une médaille d'or, 4 d'argent et 5 de bronze. Chez les hommes en patinage de vitesse courte piste, les gars sont en bonne position pour les compétitions restantes. Le quatuor québécois formé de William Dengenou, Félix Roussel, Steven Dubois et Maxime Lahoun se sont qualifiés pour la finale au relais 5000 mètres qui sera présentée vendredi. Dengenou, Dubois et Lahoun ont également obtenu leur billet pour les quarts de finale du 500 mètres. Maintenant, en curling, les Canadiennes ont battu les Chinoises 10-5 ce matin et elles ont maintenant rendez-vous avec les Japonaises. C'est présentement 6-3 pour la feuille d'érable et on est en 6e manche. Du côté des hommes, toujours au curling, victoire de 8-2 face à la Tchéquie ce matin. Avec 3 duels encore à l'horaire, le Canada est en 2e place. On est donc en bonne position pour faire partie de la grande finale pour la médaille d'or. À surveiller en après-midi au grand saut en ski acrobatique, la Canadienne Megan Holman présente une chance de médaille. Il y a aussi la Québécoise de Saint-Jérôme, Naomi Irnes, qui participe à l'épreuve. Ça devait commencer à 14h, mais en raison de la météo, c'est vraiment la tempête là-bas. Ça devrait plutôt commencer dans les prochaines minutes. En patinage artistique, cet après-midi, on surveille le duo Lia Pereira et Trent Michaud, qui sont 3e après le programme court. Il reste donc uniquement le programme libre de cet après-midi qui les sépare d'une médaille. Au hockey chez les femmes, ben, ça commence dans les prochaines minutes et les Canadiennes tenteront de se qualifier pour le match de la médaille d'or en affrontant la Suisse. Les Américaines ont sans surprise battu la Suède 5-0 dans l'autre demi-finale. Alors à moins vraiment d'une catastrophe, on se dirige vers la finale qui est quand même tant attendue. En dehors des Olympiques, on a quand même quelques nouvelles dignes de mention. D'abord chez nos remparts, ils ont bien commencé le week-end avec une victoire de 8-3 vendredi face à l'Océanique avant de s'incliner face aux voltigeurs de Drummondville dimanche par la marque de 3-2. Québec est maintenant 5e au classement dans l'Est après la fin de semaine. Au hockey, le gardien des Hurricanes de la Caroline, Brandon Bossy, a signé une prolongation de contrat de 3 ans sortie d'un salaire d'1,9 million de dollars par année. Et finalement, au football, ben, c'est terminé pour le receveur de passe Derek Hill avec les Dolphins. L'équipe de Miami annonce qu'elle a libéré le joueur qui se dirige vers ses 32 ans.
Le Top Corner avec Alex Laramie.
Gravel. Dans le retour. Le légendaire duo Denis et Véro. Sans oublier Pinchot. Pinchot.
Boulevard 102.1.
La semaine la plus douce de 2026 est devant nous, les amis. Généralement ensoleillé aujourd'hui, on a présentement moins 2 degrés. On va se rendre à zéro. Ce soir et cette nuit, minimum de moins 5 degrés. Des nuages, peut-être quelques flocons. Demain, mardi, de la neige en matinée, faible neige intermittente. Un maximum de 1 degré. Soleil mercredi, max de moins 1. Soleil jeudi, max de plus 1. Soleil vendredi, maximum de moins 3 degrés. Avez-vous regardé pas mal de compétitions olympiques en fin de semaine? Le Canada est 11e au tableau des médailles. Une médaille d'or, celle de Michael Kingsbury. 4 médailles d'argent, 5 médailles de bronze. La Suisse est devant, la Corée est derrière. Qu'est-ce qui a fait battre son cœur d'Olympien pendant les derniers jours? Il me semble qu'on a bien des choses à jaser avec notre ami qui brille de tous ses feux à Montréal aux côtés de France Beaudoin à Radio-Canada. Il l'utilise beaucoup et avec raison. Dom Gauthier, salut, comment ça va?
Ça va très bien. Salut à vous trois.
Dom, j'imagine que la médaille d'or de Kingsbury en fin de semaine, tu vas avoir le goût de nous en parler un petit peu, hein?
Ah oui. Puis écoute, tout de suite après, c'est pas vrai, mais peut-être une heure ou deux après, je parlais avec son coach Michel Hamelin, avec qui j'ai aussi travaillé beaucoup. Puis tu sais, il m'appelait là, avec son cœur de coach émotif, là, pas juste pour dire « yeah, yeah, yeah ». Non. Ce qu'il me dit là... C'est Dom, que c'est tough gagner des médailles d'or. Tu sais, C'est tough. On prend pour acquis des fois que pour ces champions-là, que ça devrait être plus facile.
C'est exactement,
ça devient quasiment pire. Mais non, là, je comprends qu'on a le talent pour le faire quand on nous met autant de pression sur le dos, mais c'est tough. Regarde, sa dernière médaille d'or était il y a 2 Jeux olympiques. Fait, ouais. C'est ça. Anyway, c'est ce qui faisait tellement du bien. C'est celle qu'on voulait. On voulait la fin de l'histoire, tu sais, parfaite.
Avec une compétition spectaculaire en plus de ça, là, ça a donné tout un show.
Ouais, nous, on se battait pour ça depuis longtemps. Là. Dans les années 90, là, c'était déjà en branle. Moi, je faisais partie d'un comité, d'un groupe pour essayer de pousser pour ça. Mais le problème, c'est que ceux qui nous représentaient à la Fédération internationale de ski, pour eux, on était tellement des gens là, de la troisième classe, là, tu sais, les skieurs acrobatiques. Nous autres, là, on est les en anglais, les peasants, là, on est les pauvres, OK? Puis, ils se battaient pas pour nous. Fait qu'on se rendait compte que ceux qui étaient supposés nous défendre, ben dans le fond, ils disaient oui. Puis là, ils allaient dans les meetings à l'international, puis ils se battaient pas pour nous autres. Fait que là, enfin, 20 ans plus tard, même plus, c'est arrivé. Et là, les boss en parallèle sont là, parce qu'on le voulait depuis longtemps, parce que c'est le fun à faire quand tu es un skieur. Puis, c'est spectaculaire, là, il y en a qui pourraient dire que c'est quasiment trop spectaculaire hier, là. Ça explosait de partout, mais c'est parce que c'est ça l'affaire. C'est que, tu sais, Kingsbury, toute la journée, c'est lui qui mettait le moteur. Au départ, il était toujours à peu près, tu sais, 12 pouces en moyenne, l'un en avant de l'autre, là. Un pied certain en avant, puis là, tout de suite, eux, ils le voient devant eux. Hey, oublie ça, si je veux le battre, il faut que je sois en avant. Et là, il s'éclatait. Puis lui, il devait regarder ça avec un petit sourire en coin, en regardant sur sa droite ou sa gauche. Donc, il a été parfait. Toutes ces descentes qu'il a faites, tu sais, ça m'a fait du bien parce qu'honnêtement, durant le début de la semaine, dans son autre épreuve, c'était pas nécessairement le fait qu'il soit deuxième qui m'inquiétait. En fait, ça m'inquiétait pas, mais il me semble que je voyais pas la qualité du skieur que moi j'ai toujours vu, que les gens à la maison remarquaient pas zéro. Là, c'est que moi, je voyais les petits détails, puis je me disais, ah, il est pas sharp autant qu'il a déjà été. Mais là, oubliez ça. Hier, c'était de la précision chirurgicale. Là. C'était vraiment hot.
Tu parles des médailles d'argent puis des deuxièmes positions. Je veux revenir avec toi là-dessus. On parle d'Eliott Grondin puis on parle de Michael Kingsbury parce que les deux ont fait des entrevues qui étaient étrangement similaires, mais les deux m'ont pas convaincu une maudite minute quand je les entendais dire « Ouais, je suis fier de ma course. Je suis fier de moi. Je suis fier de mon effort. » Puis je me disais, tabarnouche, t'es deuxième au monde. T'as une médaille d'argent. Comment est-ce que tu fais pour être abattu comme ça? Parce que je te crois pas, là. Tu me dis que t'es fier, mais ta face me dit autre chose complètement. Je veux que tu me parles de ça. L'insatisfaction de la médaille d'argent pour un athlète de premier niveau, tu sais.
Je l'ai vécu au premier degré avec Jennifer Hyle à Vancouver. Tout le monde, la même chose. Même chose, il lui mettait toute la médaille d'or autour du cou pendant 4 ans avant les Jeux. Puis elle a fini deuxième. Elle s'est fait battre par quelqu'un qui a eu la journée de sa vie. Elle aurait pu skier mieux, mais c'est plus ça qui l'a dérangé pendant longtemps. C'est quand tu sais, ah, j'aurais pu faire ça de mieux. Puis Michael, moi, je pense que c'est justement ça peut-être qui le dérangeait un peu plus que la couleur de la médaille. C'est ah! T'sais, il n'a pas été le mec dominant qu'on connaît. Puis ça, c'est ça qui devait y faire mal. Dans le cas d'Eliott, c'est tellement une course crève-cœur. T'sais, c'est par 0,03.
C'est ridicule.
T'as-tu vraiment eu un mauvais cycle d'entraînement olympique? Tu te remets-tu tout en question? Ben non, tu peux pas. Parce que si ça avait été l'inverse, c'est quoi? Tu aurais dit, hey, moi, j'ai eu la meilleure préparation au monde. Ben non, tu n'as rien fait de différent. C'est juste que c'est une course, puis il y a des choses que tu ne contrôles pas. Fait qu'il faut que tu arrives à l'accepter. Par contre, tu as raison. C'est pas vrai que ça a la même valeur pour eux. C'est pas vrai que sur le coup, c'est pas un peu amer. Jen, ça a pris du temps avant même qu'elle la célèbre, cette médaille-là, puis qu'elle l'apprécie pour bien d'autres raisons, parce qu'il y avait tellement des histoires derrière qui font que cette médaille d'argent-là, sans vous mentir, là, c'est vrai qu'elle est devenue finalement quelque chose dont elle était aussi fière, mais ça a pris du temps.
Ouais.
Par contre, vu qu'on est sur le sujet... encore une fois, on dirait que tu me vois venir dans mes points, toi là. J'adore le fait que Courtney Saro, là, vous avez pas tout regardé comme moi, là, mais aujourd'hui, la médaille d'argent.
Non,
de
là,
Courtney Saro,
fais-toi en pas, là.
j'ai, ben, vous autres, oui, mais peut-être pas tout le monde qui nous écoute. Et Courtney Saro, sa médaille d'argent, si on entend l'entrevue après, là, ça, c'est un commentaire de quelqu'un qui me dit Ben oui, moi, je fais des courses, c'est pour gagner. Moi, je veux gagner. Fait que c'est sûr que ça à glace quand je suis pas première. Ben non, je suis pas contente. Je veux gagner.
Puis elle passe proche, là.
Ben, c'est tellement proche. Mais après ça, elle dit, mais là, après ça, je prends mon recul. Puis regarde, c'est ma troisième médaille olympique. Puis sincèrement, je trippe. Elle, quand elle me dit ça, je la crois un peu plus.
Ouais.
Et c'était sincère. Puis c'est sûr qu'eux, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont, ils ont cinq courses. Là, fait qu'ils ont toujours la chance de se reprendre. Mais non, moi, je veux gagner. Pourquoi je célébrerais puis pleurer quand, quand je croise le fil d'arrivée puis il y a une fille en avant de moi? Non. Ça, ben, j'aime ça.
En fin de semaine, la médaille de Laurent Dubreuil, c'est l'équivalent d'une médaille d'or pour lui, sa médaille de bronze. C'est sa dernière.
100%.
Tu le voyais quand il parlait, il dit « Les deux autres ont été meilleurs que moi, j'aurais jamais pu être à cette hauteur-là. »
Exact. Tu sais, fait qu'il faut que tu l'acceptes que des fois, il y en a qui sont dans une progression, dans leur progression ailleurs que toi. Lui est à la fin de sa carrière, puis malgré ça, il a fait un de ses meilleurs chronos. Ben, ça donne qu'il y en a un qui est né aux États-Unis, puis un autre en Hollande. Puis cibole, on est en train de voir les deux plus grands sprinteurs sur patin qu'on a jamais eu sur Terre. Fait que lui, encore une fois, Laurent, il peut pas s'en remettre en question. Puis en plus, lui, il a 33 ans, Laurent.
C'est les malade. Autres en début vingtaine.
Ça a aucun regret là-dedans. Puis au contraire, c'est pure satisfaction parce que dans mon tableau des médailles, Laurent, là, ça reste, c'est un long shot à cause de ces raisons-là. Mais il m'a impressionné par son calme, ce gars-là. Puis,
d'ailleurs,
ça n'est une qui faisait du bien. Hein.
Tu parles de ton tableau des médailles, puis sur notre texto, il y a quelqu'un qui nous demande si tu revoyais ta prédiction de médaille à cette étape-ci des Jeux, alors qu'il en reste pour même pas une semaine.
Je la mettrais à 29 au lieu de 31. Fait qu'on n'est pas si loin que ça.
Okay.
Il y a eu deux déceptions, une surprise. Honnêtement, celle de Laurent, pour moi, c'était une surprise. Fait que je la comptais pas, je l'espérais, les deux déceptions, en saut à ski à Big Hill Strat hier, en fait, moi, je la mettais dans mon compteur. Elle a eu quasiment des podiums à chaque compétition cette année, donc elle a fini même hier 20e, je pense, à peu près. Ça, c'est une grande déception. Et l'autre déception, c'est William Dangino en patinage de vitesse courte piste. Il devrait en avoir une autre dans ses poches qu'il n'y a pas présentement, selon mon compteur à moi. Mm-hmm. Ce qui risque peut-être de sauver, c'est que ce n'est pas fini pour lui. Puis c'est sûr que ça ferait du bien de voir des doublés. Tu sais, avoir deux Canadiens sur un podium, disons que ça aiderait mon compteur. Mais les gens paniquent, le monde m'écrive, qu'est-ce que c'est ça? Tata, mais non, c'est normal, c'est l'horaire des Jeux et c'est fait comme ça. Et, comme, tu sais, oui, je suis peut-être deux « over », mais peut-être qu'il y aura des surprises, puis que Megan Oldham, qu'on regarde présentement, elle en gagne deux médailles. Fait qu'elle, je ne la voyais pas à deux médailles. Là, elle est en saut acrobatique présentement, là, en grand saut, pardon. Et elle a déjà gagné une médaille que je ne prévoyais pas à l'épreuve de la descente acrobatique. Fait que, c'est un peu ça. C'est des plus, des moins, mais surtout, il n'y a aucune panique. Par contre, c'est vrai que des médailles d'or, c'est pas assez. Mais c'est tough des médailles d'or. C'est ça.
Parlant d'être tough, Dom, je veux t'entendre là-dessus parce que je pensais à ça en fin de semaine en regardant Kingsbury qui va prendre sa retraite au top, puis ainsi de suite. Mais puis là, je vais faire un parallèle ultra douteux là. Mais on est dans une région où on a la base militaire de Valcartier, puis souvent on a l'opportunité de jaser avec des soldats, puis ils disent, tu sais, moi, je suis allé en mission en Afghanistan, je suis allé en mission à telle place. Je reviens dans la vie normale après ça, puis je suis pas capable. Je suis pas capable d'aller faire mon épicerie. Je suis pas capable de trouver de stimulation à vivre une vie ordinaire. J'ai comme...
vivre un quotidien, une routine.
Il y en a qui tombent dans la dépression, puis ainsi de suite. Le blues post-olympique de quelqu'un qui a consacré toute sa vie à devenir le meilleur, puis qui réussisse ou pas, je sais pas si c'est rendu important à ce niveau-là, mais... quand tout se termine, là, du jour au lendemain, hey, je prends ma retraite, je vais jouer au golf, je vais être papa temps plein, tout a de l'air le fun. J'ai l'impression que c'est pas le fun tout le temps, moi.
Denis, calique, encore une fois, on devrait faire un show de radio ensemble.
Imagine si on se préparait pour ces conversations-là. Donc.
C'est ça, là. Écoute, il y a Jackie Robinson, joueur de baseball, qui avait dit que l'athlète... était quelqu'un qui devait mourir deux fois dans sa vie. Et il y a un psychologue australien qui, lui, il a ajouté à ça de dire que les athlètes et les militaires, c'est les deux seuls individus sur Terre qui meurent deux fois.
Tabarnouche!
Puis c'est ça. C'est ça, man. Je l'ai. Ben, moi, ma transition a été quand même facile pour bonnes raisons.
Ouais.
Mais un athlète comme ça qui est au sommet, qui a vécu la grande gloire, là, tu sais, je ne l'ai pas connu, la grande gloire. Quand tu la vie, l'intensité d'être un premier, de gagner une médaille aux Olympiques, puis que là, bang, ça arrête. C'est peu importe comment tu es prêt, même les études que tu as, même si tu avais des études en médecine, puis non, tu dois tout refaire. C'est fou. Donc, psychologiquement, c'est extrêmement, extrêmement difficile. Pour ceux qui ne sont pas préparés, ben des fois, ça mène à des situations très graves de santé mentale, puis de dépression, puis tout ça. Ce qui est quand même pas, peut-être pas commun, mais qui arrive souvent aussi chez les militaires. Là, on les voit souvent qui tombent dans la boisson, puis ces affaires-là. Ouais. C'est peut-être des clichés, là, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est
non,
plus
mais
une image,
clichés partent. Puis regarde, je vais poursuivre mon parallèle. Là, finalement, là, s'il y a des chercheurs qui l'utilisent, il ne doit pas être si mauvais que ça. Mais maintenant, les militaires ne sont pas seuls. Il y a des organismes qui leur viennent en aide pour justement les aider dans cette jonction-là de leur vie qui est difficile. Ouais. Est-ce que l'athlète, après sa carrière olympique, il y a des organismes qui existent? Y a-tu du coaching qui se fait? Sais-tu plus adressé ces choses-là en 2026 que ça l'était en 1990, mettons?
Absolument. Et le Comité olympique canadien a un programme qui s'appelle Plan de match. D'ailleurs, je pense qu'on en parle ce soir de cette situation-là. Tu vois, regarde, comme tu as prévu mon show de la soirée, là, on soit du monde, puis on parle de la transition, toi, chose.
OK, fait que OK.
Je suis pas mal prêt. Fait que le Comité olympique fait du bon travail. Il y a le groupe aussi, la Fondation Aléo, qui aide les athlètes qui vont aux études. Donc ça, naturellement, ça aide à la transition. Et il y a également Sportaid qui peut aider aussi. Fait qu'il y a de l'aide. Par contre, puis je suis certain que ça doit être la même chose chez les militaires, quand tu t'en vas dans une mission ou tu es dans une période de ta carrière où tu es en full mission mode, là, tu sais, c'est plate, là, mais les athlètes, ils s'en servent pas autant qu'ils devraient s'en servir de ces services-là. Et c'est souvent réactif. C'est quand que la chaîne débarque que là, ils demandent de l'aide rendue là, alors qu'il y avait plein de choses en amont qui étaient disponibles à eux. Parce que je te dirais que ce que j'entends des gens, mettons, de ce programme-là, plan de match du Comité olympique canadien, souvent, c'est ça. Ils vont organiser, je sais pas moi, des retraites ou des événements, puis les athlètes sont durs à rejoindre, ils se pointent pas. Ouais. Ils se pensent invincibles à ce moment-là aussi. Ah. Là, pis... Mais le service est là, l'aide est là et c'est 100 fois mieux, puis on en parle. Juste ça, on en parle.
On
en parle
son chemin. Ah, ouais.
Avant même, l'équipe de patinage de vitesse courte piste, il n'y a pas si longtemps, avant l'arrivée de Marc Gagnon et d'autres dans l'organisation, l'athlète avait à peu près pas le droit d'aller à l'école. Là. Donc, on n'est plus là. Là, ils les encouragent à aller à l'école. Puis, ils organisent leur heure en fonction de leurs études. Puis, tout ça pour qu'il y ait d'autres champs d'intérêt. Tu sais. Et ça prouve que lorsque tu arrives aussi en compétition, comme aux Olympiques, tu n'as pas l'impression que, hey, là, si je ne gagne pas une médaille, ma vie va être un désastre. Mm-hmm. Au moins, tu as d'autres choses. Tu sais. C'est sûr, tu as vu la médaille pareil, mais au moins, tu peux t'accrocher à d'autres intérêts puis penser à l'avenir après ta carrière qui est courte quand même. Tu sais.
Dom, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. C'est quoi les prochains spotlights pour toi là, que tu attends dans les prochains jours?
Dans les prochaines minutes, c'est Megan Holden. Mais Naomi Hornet, je la connais pas. Là, fait que c'est sûr que mon cœur est avec Megan, puis je travaille de près avec elle. Mais okay. Naomi, si elle peut monter sur le podium, l'autre Canadienne, je serais aussi content. Après ça, le saut acrobatique va commencer là, demain. Et Dylan Deschamps, que je vous parle tout le temps, ben là, c'est lui demain. Fait que là, c'est ça. Celle-là, je vais être un peu plus nerveux aussi. Là. Mais puis le hockey, puis toutes ces affaires-là, mais le hockey, c'est pas moi, ça. C'est d'autres mondes qui en parlent.
T'es-tu défanché du hockey, le double, depuis notre dernière jasette?
Ouais, honnêtement, je me suis calmé, Denis, parce que quand tu me l'as annoncé que les joueurs de hockey couchaient pas au village, là, je suis parti comme une bombe, mon gars. Puis là,
on n'a pas remarqué.
J'appelais tout le monde. Je disais, qu'est-ce que c'est ça? Puis en bout de ligne, je me suis dit, écoute, s'il y a un athlète qui est multimillionnaire et il ne veut pas coucher dans le village, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il ne couche pas dans le village. Tu sais, c'est pas comme si... Non, attends. C'est que si c'était le Comité olympique canadien qui leur payait ça...
Ça serait autre chose.
Ça veut dire, jamais il le ferait. Mmh, mais s'il le ferait, ça serait le scandale. Là, oublie ça, j'arracherais tout. Mais là, écoute, si c'est Hockey Canada qui ont de l'argent ou les joueurs qui payent, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Regarde, c'est ça. Au moins, ils ont fait mieux qu'avant. Là, ils sont allés voir les événements, ils ont été dans le village, ils ont pris des photos avec tout le monde, puis ils ont été bons joueurs. Là. Fait que, je me suis calmé, mais c'est ça. T'as été bon pour me faire grimper l'adrénaline dans le corps.
Hey, Dom, c'est vraiment un plaisir et un beau privilège qu'on a de te jaser. Et encore de te reconnaître dans tes émotions et tes passions.
All right, bye, bonne fin de journée.
Salut! Vous allez voir Dom Gauthier, évidemment, ce soir, puis tout au long de la programmation à Radio-Canada, aux côtés de France Beaudoin, mais je sais qu'il fait beaucoup de capsules, puis c'est est devenu, je pense, un des excellents communicateurs. Hein. Ouais. Il y en a quelques-uns là, qui sont très bons là, du côté de Radio-Canada. Là, on dirait qu'à chaque Jeux olympiques, je fais de nouvelles
découvertes. Nouveaux talents.
Oui, effectivement, effectivement. Il y en a beaucoup de très bons qui le font avec, je trouve, juste le bon dosage de passion, d'émotion, puis de connaissances techniques pour faire en sorte qu'un gros niaiseux comme moi soit capable de suivre même des épreuves qu'on connaît pas ou des disciplines qu'on connaît moins un peu. Puis des gens passionnés comme Dom Gauthier, je pense qu'ils aident énormément la cause olympique. J'espère qu'il se fait dire merci souvent. Hey, il est 3h21 dans la circulation, Audrey.
Ça commence tranquillement pas vite sur la capitale, direction est, hauteur Robert Bourassa, ouest, hauteur Laurentienne. L'entrée des ponts, c'est direction sud, surtout là, Henri IV, à partir de chemin Sainte-Foy, on sent le ralentissement. Pour le reste, ça va bien. Rive-Sud, c'est dégagé. Vous voyez autre chose? 88-971-1021 texto. Gravel.
De grosses têtes d'affiche cette année pour le festival. Tant mieux pour bien des gens de Lévis qui peinent à s'acheminer vers la Rive-Nord. Ça fait partie des réflexions que certains auditeurs ont partagées en début d'émission parce que je vous disais que j'avais vécu le calvaire d'un Lévisien samedi avant midi en essayant de revenir chez nous sur la Rive-Nord après un tournoi de hockey.
En fait, t'as vécu le calvaire des gens qui vivent sur les deux rives, puis il y en a beaucoup plus qu'on pense, là.
Ben oui.
Que ce soit pour le travail, des relations amoureuses, des enfants qui ont du sport à faire de part et d'autre. Les raisons sont multiples d'avoir à traverser les ponts, puis pas juste la semaine.
En fait, ça fait encore plus mal le week-end parce qu'on entre dans nos activités ludiques, dans nos volontés d'évasion. Puis dans ce temps-là, tu veux pas perdre la moitié de ta journée dans le trafic parce que de décider de faire du magasinage ou d'aller au carnaval ou d'aller au festival d'été. Puis justement, des textos qui sont rentrés de gens de la Rive-Sud qui disent « Moi, depuis quelques années, je prends l'argent que je prenais pour le festival d'été, puis je m'en vais voir des shows à Trois-Rivières, je me tourne vers d'autres festivals. Puis cette année, avec Sale Barbe, avec Papa Roach, puis avec
The Offspring,
il y a bien du monde qui vont se dire, moi, mon festival d'été, cette année, ça va être le festival. Et ils seront pas trop déçus. D'ailleurs, je vous rappelle que les billets sont en pré-vente présentement. 5 jours de musique, de montgolfière, d'activité. C'est gratuit pour les enfants de 11 ans et moins. Festivant.ca pour avoir tous les détails de la programmation. Puis je vous rappelle ça comme ça, on the side, là. Mais il reste encore 2 têtes d'affiche qui n'ont pas été annoncées dans le cadre du Festivant. Ça prendrait qui là, pour compléter cette programmation-là, artiste québécois ou autre?
Québécois, puis ça prendrait probablement une soirée pop très dansante. Le Festivant, c'est donné cette mission-là dans les dernières années, puis même d'aller chercher des artistes un petit peu plus vintage, mais très rassembleurs.
Allez-y avec des bonnes idées, des bons flashs. Dites-moi pas M&M, là, ce sera pas M&M, OK? 418-971-1021 pour le plaisir. On a 2 passeports adultes valides pour les 5 jours du festival à vous remettre parmi tous ceux qui vont participer. Donc, 418-971-1021 par texto. Il manque quoi à la programmation du festival?
Je sais pas si ça va donner comme ça, mais souvent le festival et le festivois ont des programmations qui peuvent être semblables. Et je sais qu'au niveau de la pop, la nostalgie, le Tayo Cruz, qui est du côté du festivois, fait que peut-être que ça pourrait être le nom annoncé au festival
ça
dans les prochaines semaines. Et il y a de la... En tout cas, moi, c'est mon secondaire. Fait que je sais que j'y serais, c'est sûr.
Bon, allez lire vos suggestions 418-971-1021 puis bonne chance à tous ceux qui participent. N'oubliez pas votre nom. N'oubliez pas votre prénom. Question quiz d'actualité. Une municipalité de 6000 personnes n'a pas d'eau potable depuis 2 ans et le gouvernement s'en sacre. On est dans quel pays?
C'est scandaleux.
Est-ce qu'on est en Haïti? Est-ce qu'on est à Cuba en pleine crise de l'énergie? Est-ce qu'on est en Russie où le gouvernement fait semblant que tout va bien? Mais qu'on empoisonne avec du venin de grenouille nos opposants politiques. Il faudra se parler de celle-là tantôt. Non, on est au Québec.
C'est incroyable.
On est au Québec. Ah, ben là, Denis, on doit être dans le fin fond du Nord, là, en arrière des réserves indiennes et tout ça. Non. On est à Princeville. C'est dans le centre du Québec. comme dans la région du centre du Québec.
C'est pas loin d'ici, là.
C'est pas loin d'ici. Depuis 2 ans, les citoyens de Princeville n'ont pas d'eau potable. Un moment donné, il y a un avis. Tu sais, des fois, on a des avis...
C'est 1h24 de Québec, quand on vous dit que c'est pas loin.
C'est 1h30. Hey, t'as le temps de traverser les ponts, puis t'es quasiment rendu. tu sais, les fameux avis d'ébullition, là, qu'on a une fois de temps en temps, ça arrive. C'est plate, mais ça arrive.
2 jours au maximum.
Ouais. Ah, 3 rues à Charlebourg, faites bouillir votre eau, puis ouais. 2 jours plus tard, c'est correct. Eux autres, ça a commencé de même. Il y a eu un avis, puis il est jamais parti.
Et qu'il y en a qui ont dû se poser la question. Ils ont-tu juste oublié, puis on continue à vivre normalement?
Ça a commencé en septembre 2023. Un avis d'ébullition préventif qui a été imposé en raison de tests effectués. Puis là, on voit que la source d'eau de Princeville pouvait contenir des parasites. La ville a condamné les abreuvoirs dans les parcs et les installations sportives. Puis là, on se dit, bon, ben, ça va faire 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. On est rendu à 2 ans. Et la mise en garde n'a jamais été levée.
C'est incroyable.
Il y a des citoyens, et ils ont raison de le décrire comme ça. Ils disent, moi, je paye une taxe d'eau. Et pas d'eau. J'ai pas d'eau potable.
C'est moi.
Oui. Je paye...
C'est pas d'eau potable d'un chalet de fin de semaine. Ou encore, quand vous étiez avisé qu'il y a des travaux d'aqueduc qui se font.
Ça arrive.
Tu te règles. C'est ça. Ça arrive. 2 ans. 2 ans.
Là, t'as du monde qui attend à l'épicerie. Tu sais, des fois, une petite boulangerie cute, là, les gens savent à quelle heure le pain frais arrive. Ah, là. Ouais, hein? Puis là, il y a une petite file qui s'installe. Là. Puis là, ils attendent parce qu'ils savent. À 14h30, ça sort du four, le pain chaud,
le
il
pain
sent
croissant,
bon.
C'est tellement bon.
Ben, à Princeville, là, l'heure où ils font la file en avant de l'épicerie, c'est l'heure où le troc arrive avec les galons d'eau.
C'est terrible.
Puis ils partent avec des cruches sur le dos.
C'est risible en maudit, hein?
Hey.
Comme quand t'es à Cuba,
ben,
faut que tu te brosses les dents avec tes bouteilles d'eau.
Ben oui! Combien de gros touristes québécois dans un autobus qui les amène vers leur tout inclus? Hey, check ça, Linda, l'onde avec les canisses d'eau. Ouais, ben Princeville, c'est ça. Il n'y a pas d'onde, là? Mais c'est la même affaire depuis 2 ans. Et le gouvernement, le même gouvernement qui se dépatouille dans le rapport Galant aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'il y a une usine de filtration d'eau. C'est un projet qui est dans les cartons depuis un bout, qui est évalué à au moins 30 millions de dollars. Ben, le gouvernement a changé d'idée sur le fait que c'était quelque chose d'important.
Ils font jamais ça, le gouvernement, changer d'idée sur des affaires importantes.
Ben, de ce que je comprends, là, c'est quand ils ont tout coupé en panique. Là. Quand ils citent, ils ont arrêté de...
Les ponts d'étagement, les voies réservées...
Tous les projets de circulation, ça a été gelé à grandeur de la région de Québec. On a vu qu'il y avait des projets de rénovation d'hôpitaux et d'écoles aussi qui ont été gelés. Là. Mm-hmm. Ben, parmi les affaires qui ont gelé, t'as... l'usine de filtration d'eau à 30 millions de dollars de Princeville. C'est pas retenu dans les priorités du gouvernement avant 2029.
Ah, mais encore 3 ans de cruche d'eau. Voyons, Denis, ils ont été capables de faire 2 ans.
Fait que là, ils ont 2 ans de fête. Ils ont pas encore la moitié de leur temps de fête à porter des cruches sur leur dos comme des ânes. Le gouvernement qui... Ça, c'est l'observation du maire de Princeville. Il dit, au fond, il dit, la santé publique considère qu'on est assez prioritaire pour mettre un avis préventif d'ébullition d'eau, mais le ministère des Affaires municipales considère qu'on n'est pas assez prioritaire pour financer nos études. Fait qu'en attendant, ben on attend. Niaiseux de même. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation n'a pas répondu aux questions du Journal de Québec. Il y a sûrement des affaires plus pressantes à adresser que du monde qui sont privés d'eau courante et potable depuis 2 ans en plein cœur de la province de Québec. On commence à ramasser beaucoup de signes hein, d'affaires qui ne marchent pas.
Puis des éléments qui devraient être évidents. Tu sais, quand c'est les hôpitaux, qu'il y a de l'eau dans les salles d'attente, dans les salles d'opération, quand on parle d'eau potable, on s'entend-tu que c'est de la base dans une société qui n'est pas dans le tiers-monde? Là?
On a besoin pour notre survie de l'eau, de la nourriture.
On accepte dans un hôpital qu'il y a des trous dans les murs et que les gens jettent le déchet dans le trou du mur pour nourrir les écureuils qui vivent dans le trou du mur. On accepte
c'est ça de la biodiversité.
on accepte. On fait comme au Miller Zoo, mais d'un hôpital.
C'est quand même particulier.
C'est spécial.
Compagnie.
On accepte que les colonies de fourmis envahissent les dentiers des patients. On accepte que les écoles littéralement tombent en ruine, puis qu'on ne soit pas capable de faire en sorte que nos enfants enlèvent leur veste d'hiver quand il fait moins 30, puis qu'ils soient capables de se concentrer sur leurs examens dans des classes où il ne fait pas plus 45 degrés. Là, c'est l'eau qui manque, puis c'est pas grave. Puis le journal appelle, « Hey, comment ça fait qu'il n'y a pas d'eau potable depuis 2 ans? » Puis le ministère répond, « Même pas. » Voyez-vous la fin de ça arriver avec Charles Milliard, Mme Fréchette, M. Drainville, Paul Saint-Pierre Plamondon? On n'est pas capable depuis 8 ans avec un gouvernement qui nous l'avait promis de virer à machine de bord. Non seulement on n'a pas viré à machine de bord, on a réussi à faire pire que ceux d'avant. Voyez-vous le bout de ça arriver, vous autres? Les solutions, là? Non, mais pour vrai, puis je veux pas faire du catastrophisme. Mais là, on est rendu...
Juste du fatalisme.
On est rendu avec du monde qui n'ont pas d'eau potable à 1h30 d'ici depuis 2 ans, puis le gouvernement ne retourne pas les appels.
Il y a un texto qui est entré. La joke avec la vue d'ébullition de Princeville, c'est que l'eau est aussi potable qu'elle l'a toujours été. Mais le gouvernement a décidé que maintenant, le standard pour l'installer était fait de manière A, mais à Princeville, on utilise la manière B depuis toujours. Elle est fonctionnelle, pas plus problématique, pas de risque supplémentaire, mais pas approuvée par le gouvernement du Québec.
Ouais. C'est pas mieux.
Fait qu'ils sont pris à pas savoir comment faire approuver le tout, mais l'eau est potable, techniquement.
Ça dépend à qui tu parles. Il y a une petite madame, elle dit « Toutes mes plantes sont mortes.
Bon. » Mais ici, Audrey aussi a dit ouais, ça, mais elle les arrose pas.
Ici, il y a de l'eau potable, puis Audrey tue toutes ses plantes.
Il faut que je dise que maman a repris en main Audrey la plante.
Ben oui, mais c'est pas ta main, c'est pas toi.
Ben oui, mais...
Prochaine fois, je l'achèterai direct à Manon. Là.
Ça fonctionne. Elle est en train de revenir en vie.
Oui, mais rendu à l'âge que t'as, à l'âge que la plante a, elle devrait être en mesure de subvenir à ses besoins, non?
Oui, mais tu sais, tout le monde a des lacunes, Denis. Faut apprendre à en parler. J'assume celle-là.
As-tu un avis d'ébullition dans ton
cerveau? Je peux-tu prouver un point? On fait vraiment du coq à l'onde, là. Désolé pour la gang de Princeville, vous avez pas d'eau puis vous faites pitié, là, mais on peut-tu faire un test psychologique avec Audrey?
Ben oui.
Hein?
Je veux que tu y achètes une autre plante. Puis je veux que tu l'appelles Denis la plante.
Ah, oh, va la laisser mourir en une semaine.
Je pense pas, moi.
Pourquoi? Ça serait une petite fougère.
Je pense pas, moi.
Oh mon Dieu, je suis comme secouée.
Je pense qu'Audrey...
s'occupe plus des autres que d'elle-même.
Et voilà. Puis elle va nous le montrer avec une plante juste en la changeant de nom.
Je pourrais acheter une petite fougère Boston?
Oui!
C'est vraiment cute, puis t'aimes Boston, puis t'as
ben
une veste en fougère. Là.
Ben oui!
C'est ça, je la laisserai pas crever.
Tu y achètes 2 plantes. Okay. OK? 3 plantes.
Oui.
Audrey la plante, Véro la plante, Denis la plante.
Puis on les fait compétitionner comme aux Olympiques.
Non!
Les Olympiques de la survie.
Non, on dit rien. Une fois de temps en temps, on prend des nouvelles des 3 plantes. Laquelle va bien? Laquelle a été jetée après une semaine? Hein?
C'est vrai que ton chum t'a acheté des fleurs séchées pour la Saint-Valentin pour pas prendre de chance.
C'est-tu vrai que t'es arrosé?
Non, quand même.
Il est 15h40. Vous êtes à Boulevard 102.1. C'est Gravel dans le retour. Il y a de la circule, Audrey?
Oui, sur la Capitale-Est, auteur Robert Bourassa. Ouest, auteur Laurentienne. Henri IV-Sud à partir de chemin Sainte-Foy, on sent le ralentissement jusqu'à l'entrée des ponts. Et ça s'installe tranquillement pas vite sur la 20 Ouest, auteur Tagnata. Quoi que ce soit d'autre, 88-971-102. Un texto.
Gravel. Boulevard.
Ça fait une vingtaine d'années que je travaille avec Véro. Il est 15h46.
M'excuse.
Je reconnais sa fébrilité olympique et quand elle commence à s'agiter, se tortiller sur sa chaise, je sais qu'on a des chances de médaille. Qu'est-ce qui se passe, Véro?
C'est parce qu'à l'heure où on se parle, il y a une finale qui est en train de se dérouler en Frisky Big Air. Puis, on a une fille qui avait déjà été médaillée, qui s'appelle Megan Oldham, qui avait reçu une médaille de bronze de mémoire. En fait, c'est en ski. Puis elle est la prochaine à descendre. Puis on est à la troisième manche. Puis dans le provisoire, elle est pas mal classée en tête de tout ça.
Oh!
Fait que c'est très excitant au moment où on se parle.
Donc ça, c'est son dernier saut?
C'est son dernier saut. Puis OK. J'ai de la, t'sais, on garde, sur les trois sauts, on garde les deux meilleurs. Fait que j'ai de la misère à voir comment ça pourrait mal aller pour
mais
elle. Sont, fait que j'ai un peu stressé.
Mais regarde, ils sont pas bien bonnes. La plupart du temps, ils partent à reculons. Ils partent même pas dans le bon sens.
Oh, elle est tombée.
Non. Oh, elle est tombée sur le dos.
Oui, mais elle a quand même deux très, très, très bons sauts.
Okay. Ça, c'était son troisième.
Oui, c'était son troisième.
Okay, fait qu'il est de côté, celui-là. Là.
T'as tout compris. Fait que voilà.
Ah, ben toi, t'es beau, c'est correct.
Elle a l'air correct. Elle n'est pas blessée, en tout cas, c'est déjà ça. Oups.
Non, puis elle est contente parce que je pense vraiment que c'est une médaille d'or pour elle.
Médaille d'or, malgré la chute, parce
championne
que...
Championne
ce... olympique. OK. Ouais. Ah, ben tabarnouche.
Médaille d'or pour
elle. Le nombre
elle.
De personnes qui sautent dessus, d'après moi, c'est une médaille d'or.
J'ai toujours rêvé de gagner une médaille d'or en tombant.
C'est la première médaille canadienne chez les femmes au grand saut ever.
OK, c'est fait, là.
C'est fait. C'est en direct, là, ce qui est en train de se dérouler devant nous. Fait que, tu sais, elle faisait son troisième saut. Elle avait mis la gomme, elle avait mis le tout pour le tout. Mais elle savait déjà, malgré ça, que ses deux premiers sauts avaient tellement bien été, avec des notes de 91,75 puis de 89, qu'il n'y avait pas de problème, que même si le troisième saut ne comptait pas, elle était quand même en tête des compétitrices. Fait que c'est un très, très beau moment qui vient de se dérouler. Fait que deuxième médaille d'or pour le Canada et deuxième médaille d'or pour elle, ce qui est fantastique. Elle avait remporté le bronze en slopestyle.
Écris à Dom Gauthier de ma part, Audrey, dis-y que je fais dire qu'elle aurait dû se partir par en avant pour se donner une chance.
Parfait. J'écris ça à l'instant.
J'ai l'impression qu'on a entendu Dom crier jusqu'ici. Ah, tu parles d'une belle nouvelle. Je suis très contente.
Ah, ben deuxième médaille d'or pour le Canada qui est confirmé à l'instant. On verra pour la suite des choses. Je sais que les Canadiennes jouent contre la Suisse.
C'est toujours 0-0 au moment où on se parle. Le Canada qui domine dans les tirs, on est 13-1. Puis au moment où on se parle, il y a aussi du patinage artistique. Alors qu'on a deux couples canadiens en action, puis qu'on en a un qui, après le programme court, était déjà troisième au classement provisoire. Fait que j'ai très, très hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le programme libre.
Et vous, avez-vous été des Olympiens de la Saint-Valentin? Est-ce que votre blonde, votre chum, vous a donné la médaille d'or? Je sais qu'il y a des gens qui ont été gâtés. Je sais qu'il n'est jamais trop tard pour recevoir son premier bouquet de roses. Véro?
Jamais trop tard.
Jamais trop tard. Continuez d'espérer, mesdames, messieurs, ça finit par arriver. Et même au meilleur d'entre nous, Véro a reçu son premier bouquet de roses.
Ma douzaine de roses. Oh, tu sais, des fleurs, j'en ai déjà reçu à quelques reprises. En fait, j'ai un amoureux qui achète des fleurs, somme toute, régulièrement. Mais il me semble que la douzaine de roses, c'est pas pareil.
Ça frappe.
Ça frappe beaucoup.
On va vous aider à gérer peut-être l'après-Saint-Valentin. Oui. C'est Paul Lévesque que vous entendez, spécialiste du comportement humain. Paul, bonjour.
Mais salutations sincères en ce lundi de lendemain de veille.
Oui, lendemain de veille. tu veux nous dire que l'après-Saint-Valentin... en partant, la Saint-Valentin, tu penses quoi de ça?
Ben, vous allez le voir, ma chronique va être basée un peu sur ce que je pense.
Ouais.
Je pense... Écoute, non, je vais te dire d'où vient ma réflexion.
Vas-y.
J'ai été longtemps à aller la journée de la Saint-Valentin au restaurant, habiller bien, sentir bon, tout ça. Et c'était toujours les pires moments de mon année.
Hein?
Oui. Écoute, je me faisais violence parce que j'avais l'impression que c'était une mise en scène.
Mm-hmm.
Et que tout le monde autour de moi était en mise en scène, et que les tables étaient collées, puis que là, on n'avait même pas d'espace pour avoir sa bulle, puis que tout le monde autour essayait de performer pour dire « Ben, si j'étais à Saint-Valentin au restaurant, c'est parce que j'étais un couple uni puis un couple qui s'aime. » Tu comprends?
C'est drôle parce que ma copine, que tu connais,
oui.
Tu sais qu'elle n'est pas barrée par... est un peu troqueuse, ses bords, là, dans sa façon de s'exprimer. Puis quand j'y ai offert d'aller manger au restaurant en fin de semaine, elle m'a dit « Tu veux qu'on aille faire semblant de s'aimer avec plein d'autres mondes qui font semblant de s'aimer au restaurant? »
Écoute,
c'est bien dit, par exemple.
Mais là, je ne veux pas démoniser tous les gens qui... C'est toujours l'intention qu'il y a derrière, puis si ça plaît aux gens. Mais moi, j'avais envie qu'on ait une réflexion ensemble sur lendemain de veille, on le fait jamais.
Parce que ce que je disais un petit peu plus tôt aujourd'hui, c'est qu'il y en a plusieurs que la Saint-Valentin, c'est le moment où quelqu'un dans leur entourage va comme leur dire « Hey, je vais garder les enfants, c'est votre moment. » Fait que souvent, tu sais, ça sera pas la mise en scène nécessairement plus que l'opportunité de le faire, mais tu sais, à chacun sa réalité, par exemple.
Oui, le problème, c'est que ça soit misé sur un seul événement. Et c'est là que je veux attirer l'attention aujourd'hui. Une fois que les roses sont fanées puis qu'on aura serré le vase, que restera-t-il de notre Saint-Valentin?
Ouais, ben c'est sûr que mon couple va encore passer à travers cette année. Là, j'ai acheté une rose, ça va être correct. Je suis pas sûr que c'est une bonne vision ou une bonne façon de voir la vie de couple.
Tu sais, Véro a dit souvent, c'est une occasion, tu sais, les enfants vont se faire garder, puis t'en profites, puis tu sors, mais je me pose souvent la question, est-ce que ces parents-là ont vraiment envie, justement, d'aller se serrer entre deux tables où il y a d'autres couples, ou tu sais, au lieu de faire quelque chose qui peut-être leur ferait vraiment du bien, au lieu de se reposer, au lieu de faire autre chose que cette fameuse mise en scène-là, parce que j'ai l'impression que même quand tu ressens le besoin, il y a des parents qui sont tellement épuisés par la vie de famille qui profitent pas vraiment de cette soirée-là où c'est super bruyant au resto parce que c'est la soirée la plus réservée de l'année. Mm-hmm. Je trouve qu'il y a quand même un brin de mise en scène là-dedans.
Si c'était le début de quelque chose, j'applaudis à ça. Mm. Si c'est événementiel puis qu'on fait les choses pour ensuite revenir à on ne se regarde plus, parce qu'un couple qui vit, c'est pas la passion, c'est la capacité d'entretenir.
Ouais.
Et quand on vit une seule one-shot, on n'est pas dans l'entretien. Fait que c'est rare qu'on parle de l'après-Saint-Valentin. Dieu merci, je venais après, ça tombait bien. On parle d'avant, hein? On parle de l'amour.
Oui.
Puis même qu'après Saint-Valentin, on se dit, on peut-tu passer à autre chose? Arrêtons d'en parler, là. C'est fait. Alors que ça devrait être le début de quelque chose. La prise de conscience que peut-être on ne donne pas le temps requis à ce couple-là. Que si on a un malaise en se disant « Oh, tu manges de la merde, là, Saint-Valentin, je me sens pas à l'aise avec ça », peut-être parce que ça te confronte au fait que tu donnes pas du temps de qualité à ce couple-là.
En temps normal, là.
En temps normal. T'sais. Au fond, sers-toi de la Saint-Valentin pour évaluer ton couple. Puis, une des belles exercices qu'on pourrait faire, c'est peut-être se poser des questions à partir de cet événement-là. Je ne sais pas si ça vous intéresse.
Ah, voyons.
Tout à fait.
OK. Parce que les questions de vérité sur nous. Donc, moi, je pense que les événements doivent être des déclencheurs et non des règlements. C'est réglé, elle a eu sa petite chaînette, elle a eu ses fleurs, j'ai gagné des points, on passe à autre chose.
Les fameux Airlous, là.
J'ai acheté mes Airlous pour aller au Grand Prix au mois de juin, mettons. Là.
Oui, c'est ça. Là, je vous ai préparé 7 questions.
Okay.
Qui sont une espèce de après Saint-Valentin. Okay. C'est-à-dire.
Là, tu vas-tu briser des couples, là? Mettons les gens qui écoutent dans l'auto et qui répondent à ça. Y en a...
Bien, moi, je suis dans la vérité.
Parfait.
Donc, j'ai envie de dire, si cette vérité-là vous amène dans la prise de conscience, pour moi, c'est toujours positif.
Le couple est déjà brisé, là. On fait juste montrer un crack, là.
C'est un peu ça qu'on fait. C'est pas mal qu'ils vont briser les couples après-midi.
Bien, espérons que ce soit bien dans tous les sens.
On y va.
Première question, vous pouvez peut-être, si vous avez envie qu'on y réponde ensemble. Mm-hmm. Première question, est-ce qu'on s'écoute vraiment?
Mm. Mm.
Est-ce qu'on s'écoute vraiment veut dire, est-ce qu'on est capable de laisser aller l'autre jusqu'au bout? Est-ce qu'on est surréactif? Puis on finit par provoquer l'escalade plutôt. Puis ça, là, si j'avais un seul conseil à donner, c'est ferme ta gueule puis laisse aller l'autre jusqu'au bout. À moins qu'il manque de respect, puis là, tu réajustes, parce que tu n'as pas toute l'information, puis d'aller jusqu'au bout va amener un message complètement différent.
Ouais. Ouais. Donc, mais c'est pas évident. C'est pas évident dans le sens où, quand dans un couple, dans une vie familiale qui est exigeante, puis moi, je peux juste prendre mon exemple, c'est celui que j'ai sous le nez. Je travaille de jour, ma blonde travaille de nuit. Il y a bien des journées où ce qu'on se croise dans le cadre de porte ou à peu près. J'ai des enfants qui actuellement sont quand même assez demandants. Moi, j'ai été tout seul 24/7 pendant un grand bout, puis je porte une fatigue qui est omniprésente, tu sais, que je suis pas capable de me débarrasser tout le temps.
Fatigue émotionnelle aussi.
Oui, oui, absolument. Puis je réalise qu'il faut choisir nos moments pour parler de choses-là, parce que tous les couples ont des petits reproches ou des petites affaires à s'adresser, puis ça peut être des affaires bien niaiseuses, là. Tu sais, ça peut être le ménage, ça peut être la façon de gérer l'argent, ça peut être une façon de s'adresser entre nous autres, soit le couple, soit la famille. La volonté de se retrouver des moments juste à deux, aussi dans un bout où ce que les deux sont fucking brûlés, puis t'as pas le goût à la limite, mais tu te forces parce que t'es fatigué, mais en même temps tu veux plaire à l'autre, puis ainsi de suite. Faut choisir les moments pour s'écouter jusqu'au bout, parce que quand t'as pas la patience puis que t'as la fatigue, on rentre vite dans le blame game puis ça devient une game de ping-pong qui est très désagréable à vivre en couple, je trouve.
Ben, tu vois comment t'as fait un beau bout de chemin.
C'est une grande réponse. Hein,
non, mais t'as fait un beau bout de chemin. Moi, ce que je vous propose, c'est juste de vous poser la question ensemble.
Ouais.
En se posant la question, on en prend conscience, puis on prend conscience. Au fond, t'as répondu avec moi à la question. T'as fait l'autopsie de ce qui pourrait devenir à risque dans ton couple. T'es en train de me dire, Paul, voici tout ce qui arrive dans notre vie. Si on n'est pas vigilant, on va finir par se perdre de vue.
Ouais.
C'est ça que tu es en train de me dire.
Oui, puis je pense que c'est le défi de bien des couples aussi.
Mais tu vois comment notre question nous a permis juste d'ouvrir là-dessus. Donc, si on ouvre là-dessus, on va peut-être être plus sur le mode solution que sur le mode réaction. Mm-hmm. Tu comprends?
Parce que tu vois, en fin de semaine, si on s'était forcé à faire quelque chose que moi et ma blonde, on aurait trouvé artificiel,
tu gagnes rien,
je pense qu'on se serait pas aidé, puis je pense qu'on se serait pas rendu service dans notre climat actuel. Mais je pense que de dormir une couple d'heures collées dimanche après-midi, ça, ça nous a fait du bien.
Ben,
c'était peut-être pas un souper au restaurant où ce qu'on partage les pâtes là, comme la belle et le clochard.
Oui.
Mais c'est de ça qu'on avait besoin, peut-être.
Tu vois, quand tu dis ça, moi, je trouve ça aussi beau. Ce qui est beau, c'est de trouver ce qui nous ressemble. Puis c'est pour ça que, je te le dis, fais juste t'asseoir puis vous poser ensemble ces questions-là pour nous orienter. Tu vois, tu es déjà en train de dire, OK... Finalement, on est capable de s'en trouver du temps. Tu vois, on s'est couché ensemble dimanche après-midi. Ça naît, ça, du temps. Du temps qui nous permet, pas nécessairement d'avoir une grosse discussion, mais d'aller au bout de quelque chose. Puis au bout de quelque chose, ça veut dire se donner du bon temps aussi.
Il fallait que j'appelle la police pour retrouver mes enfants, mais ça, c'est des affaires que tu gères après. C'est secondaire.
Pardon, je vais revenir en parler.
Les autres questions, Paul?
Est-ce qu'on laisse les écrans de côté pour nous?
Oh, wow! Ça, c'est un grand défi pour bien des gens.
Ouais. Je sais.
Je suis pas mal persuadée que même samedi soir au restaurant, il y en a qui passaient plus de temps à regarder s'il n'y avait pas un nouveau message sur leur téléphone.
Exact. Donc, est-ce qu'on est capable de mettre de côté, à moins que tu sois urgentologue de garde pour des chirurgies...
Il y a des contextes de jeunes enfants. Mais ça, je pense que ça se dit dès le départ. Hey, ce soir, si on me voit regarder mon téléphone, mais j'ai une bonne raison. C'est pas toujours comme ça.
Exact.
Moi, de le dire tout de suite en partant, je trouve que ça atténue les irritants. Exactement.
Puis, combien de fuites sont faites par l'écran? Donc, juste... Puis, posez-vous la question ensemble. Est-ce qu'on passe trop de temps à l'écran? Puis, est-ce qu'on se sent à l'aise avec le temps qui est passé? Sans reproche. L'autre, est-ce qu'on se choisit au quotidien? On se choisit-tu au quotidien?
Ça veut dire quoi, ça, pour toi, Paul?
Ah, je savais... Je te piffe toujours. Je savais... D'après toi, c'est quoi? Parce que tu as une expertise amoureuse quand même. Moi, je vais te repositionner. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi se choisir au quotidien? T'aurais-tu des exemples en tête?
Bien, dans ma tête, se choisir au quotidien, c'est s'entretenir, c'est se prioriser. Pour moi, ça passe par des petits, petits choix qui vont être super banals. Tu sais, je vais prendre un exemple de quand tu arrives à la maison après le travail, si ta personne est déjà à la maison, bien, juste moi, le salut dans l'entrée, le bec, le câlin, l'accueil. Pour moi, ça, c'est toutes des petites choses qui font partie de se choisir au quotidien, qui peuvent être hyper banales, mais pour moi, font partie de ça. Mais je ne sais pas si ça, c'est représentatif de choisir.
Ben non, mais tu les connais, les réponses. Fais-toi confiance, Audrey. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est puis sentir que je te choisis toi plutôt que mes heures supplémentaires. Que je te choisis toi plutôt que d'aller toujours au hockey 6 jours par semaine. Te choisir toi, c'est laisser de la place pour l'autre dans sa vie. Là, je pourrais te donner un exemple très, très concret là qui va dans ton sens. Mon chum est venu me reconduire à la radio parce qu'il dit « Je veux qu'on passe du temps ensemble après. » Donc, j'ai tout fait mon travail pour qu'on soit ensemble.
C'est trouver une excuse.
Il m'a choisi. Ben oui. Là, fait que c'est un peu ça. Est-ce qu'on choisit au quotidien ou on se laisse étourdir par tout ce qu'il y a autour? L'autre élément, est-ce qu'on... Oh là, ça, c'est bon. Est-ce qu'on pratique la patience?
Oh boy!
défi de tous les jours.
Gros défi.
Ça n'a jamais été ma plus grande vertu, mettons. Hein?
Moi, je pense que c'est là qu'il se fait le plus grand dommage.
Tu veux dire?
Quand on est impatient, c'est là que les mots qu'on ne devrait pas dire sortent. C'est là que les mauvais traitements se font. Je ne parle pas de violence, je parle de maltraitance affective.
Ouais.
C'est là que
les
ça se fait. Les reproches. Tout ce qui est un briseur affectif, là, tu sais. Fait que moi, ce que je te propose, là, c'est quand tu sens qu'il y a de l'impatience, pratique le hors-jeu.